Il est 10h10, bienvenue dans la game édition du 9 juillet. JP Burt dans tes oreilles en compagnie de Jake the Snake, Jacob Langlois-Pelletier. Jacob est un grand connaisseur de foot, il est le producteur du balado dans les filets. Alors, notre ami Jake va se joindre à la discussion à laquelle on va greffer notre ami Olivier Brett qui est en chemin pour New York, pour la grosse pomme. Salut Oli!
Salut JP, très 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 heureux de te retrouver, cher ancien collègue. Oui, on est en route vers New York, on est parti très tôt ce matin, on est dans un, écoute, il n'y a pas plus américain en route canadien, en route vers New York que le setup qu'on a en ce moment. Je suis désolé si tu entends les vannes passer, mais je suis dans un truck stop à environ 1h45 du New Jersey où le match de ce soir se joue entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.
Ben non, en fait, le son est plutôt bon. Alors, ça, c'est parfait. Ben, tant qu'à être sur le sujet, qu'est-ce que tu fais dans ce coin-là? C'est ça, c'est le match de la
je veux pas me tromper. Coupe du monde des clubs.
La Coupe du monde des clubs, c'est ça.
Demi-finale de Coupe du monde des clubs, puis là, ça revêt un intérêt à bien des égards. D'abord, je me paye un rare road trip pour des matchs parce que d'habitude, moi, je suis quand même dans une position privilégiée. Ces genres de rencontres-là, j'ai souvent l'occasion de les couvrir pour le compte de RDS, mais là, je n'étais pas assigné à cette compétition-là. Donc, on a décidé hier avec deux chums de partir vers le New Jersey. Et la raison pour laquelle ce sera intéressant, c'est que c'est une grande générale aussi pour la finale de la Coupe du Monde à proprement dit, qui va jouer, on le sait, au Canada, au Mexique et aux États-Unis l'an prochain. La grande finale de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, ça se joue au MetLife Stadium où le match de ce soir a lieu. Donc, cette Coupe du Monde des clubs-là, elle a beaucoup, beaucoup fait jaser. J'ai hâte de voir la qualité de la rencontre, l'ambiance qu'il va y avoir, mais surtout les installations à moins d'un an de la Coupe du Monde où on va jouer la finale au New Jersey.
Est-ce que la Coupe du monde des clubs a su relever le défi? Parce que, sauf erreur, c'était la première année, là, la première édition.
Je pense pas. Pas non. Encore, du moins. J'ai hâte de voir les derniers milles, justement, de cette compétition-là. Je pense que les gens, il y a trop de clubs que les gens connaissent peu. C'est peut-être la grande qualité de cette compétition-là. Si on arrive à les découvrir, les clubs du Moyen-Orient, de l'Asie, d'Amérique du Sud, je pense que ça pourrait revêtre un intérêt encore plus important dans le futur. Mais je pense qu'on a trop vendu cette compétition-là comme étant un incontournable, la meilleure chose depuis le pain tranché. Et tu t'es retrouvé avec certaines figures importantes. On pense à Jürgen Klopp, par exemple, qui a dit que c'était la pire idée de l'histoire du foot. Si c'est pas dire la pire idée de l'histoire de l'humanité, bref. Là où je vais en venir, c'est qu'il a été très, très sévère envers le format de la compétition et l'existence même de cette compétition-là. Il y a la quantité de matchs que les joueurs jouent. Tu sais, pour le Paris Saint-Germain, que je vais voir ce soir face au Real, il y a quelques semaines, il y a un mois, ils jouaient la finale de Ligue des champions. Mais le championnat français recommence dans quelques semaines à peine. Donc, c'est vraiment surtaxé plusieurs de ces joueurs-là à un an de la Coupe du monde. Donc, il y a beaucoup de points litigieux. En même temps, si au final, quand les plus grandes équipes au monde se rencontrent, ça donne un feu d'artifice, c'est ce qu'on souhaite pour les demi-finales et la grande finale, mais là, tout d'un coup, on va voir cette compétition-là d'un œil bien différent.
Et dans le fond, ce que la FIFA a voulu faire, on connaît bien sûr la formule de la Ligue des champions qui est un grand classique annuel. En d'autres mots, ce qu'on a voulu faire, c'est une Ligue des champions, mais à saveur planétaire, finalement.
Non, je pense que c'est plus vraiment une Coupe du monde à saveur planétaire. Parce qu'on a toujours eu la Coupe du monde des clubs, mais ça se jouait en décembre, puis il y avait un nombre beaucoup plus restreint d'équipes. Puis c'était un petit peu désincarné. Tu n'avais pas le sentiment de vivre ce que tu vis à la Coupe du monde. Une période où pendant plusieurs semaines, un mois historiquement pour la Coupe du monde, l'an prochain, vu que tu augmentes le nombre d'équipes à la Coupe du monde 2026, on va tourner autour des 6 semaines. Et où tu as un build-up avec plus de matchs. Plus de matchs, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de marché potentiel. Ça veut aussi dire plus de revenus potentiels parce que tes droits télé qui n'ont pas été particulièrement prisés. Ça, je pense que c'est un des échecs pour la première édition. Je pense qu'on espérait du côté de la FIFA aller chercher beaucoup plus de revenus pour ces droits de télé-là. Mm-hmm. Mais l'objectif était d'avoir un one-stop shop, si tu me permets l'expression, contrairement à la Ligue des champions où tu joues du mois d'août, juillet pour certains qui commencent leur qualification très tôt, jusqu'en mai. Bref, c'est sur toute ta saison européenne, évidemment, parce qu'on parle pas de la saison de MLS. Donc, c'était d'avoir quelque chose de plus condensé. On va voir ce que ça va donner pour les prochaines éditions, mais j'ai surtout hâte de voir, en termes de qualité et d'ambiance, ce que ça va donner cet après-midi au New Jersey.
Puis, pour terminer sur le sujet de la Coupe du monde des clubs, tu sais, c'est une annonce qui... Un tournoi, en fait, qui est controversé depuis le début, depuis l'annonce. On parle de... Ouais. On réduit le temps de récupération des joueurs encore plus. On veut encore drainer de l'argent sur le dos des joueurs, sur le dos des équipes. Au final, est-ce que tu as senti une certaine fatigue, une baisse de la qualité du niveau de jeu pendant cette coupe-là?
C'est tellement une bonne question parce que quand tu as des compétitions estivales, ça, c'est d'un point de vue très personnel, je trouve ça difficile de comparer un match qui est joué. Tu sais, cet après-midi, il annonce une trentaine de degrés dans une chaleur new-yorkaise. On s'entend que c'est pas la même chose que jouer un match de Ligue des champions en mars à Paris. Tu sais, physiquement, ça requiert... autre chose complètement, parce que t'as pas ces chaleurs-là en championnat européen. Toujours de la difficulté à me faire une tête à savoir est-ce que c'est le temps de l'année, est-ce que c'est l'usure, est-ce que c'est certains joueurs qui sont juste pas capables de livrer la marchandise sur un match donné. Je te dirais que il y a tellement de qualité dans ces équipes-là et surtout de profondeur dans les effectifs, parce que contrairement à ce que t'as en MLS où t'as tes joueurs 15, 16, ensuite tu tombes dans de la profondeur, mais qui te coûte beaucoup moins cher, qu'il n'y a pas de comparaison avec tes joueurs 1 à 5 ou 1 à 10. Quand tu es au Real, au Paris Saint-Germain, tu as beau avoir des gars absents, tu as tellement de qualité par la suite, ben, tu es capable de garder un certain tempo. Mais ce que j'ai hâte de voir l'an prochain à la Coupe du Monde, pour ceux qui ont enchaîné la Coupe du Monde, leur championnat en Europe, la Coupe du monde des clubs, qui vont rembarquer dans leur championnat en Europe et à qui on va demander tout de suite d'embarquer sur la Coupe du monde l'an prochain, s'ils n'ont pas des entraîneurs à quelque part qui soit leur donnent des congés au cours des 10 prochains mois ou gèrent au minimum leur temps de jeu ou leur temps d'entraînement, c'est à la Coupe du monde l'an prochain qui, pour moi, là, on pourrait retrouver des scénarios un peu inquiétants. On n'espère pas des blessures. On n'espère surtout pas une baisse de la qualité de la qualité de jeu.
J'aimerais ça qu'on ramène ça au CF Montréal qui reprend l'action ce soir au Stade Saputo face au Forge FC, un club du championnat canadien, donc un club de calibre inférieur. On se rappellera la défaite plus tôt cette année de 1 à 0. Là, tu es à la maison. On s'entend-tu pour dire qu'à soir, la job, c'est d'éviter l'humiliation et la catastrophe?
Oui, je pense que depuis l'arrivée de Marco Donadel, puis on en parle souvent au fond des filets avec Frédéric Laure, les résultats ont été décevants depuis le début de l'année, que ce soit les 5 premiers matchs de la saison avant le congédiement de Laurent Courtois. Ils le sont aussi généralement sous Marco Donadel, mais ce qui a été un refuge, c'est souvent la manière. On entend Marco Donadel, on l'entendait encore hier matin, dire « ben, on sent qu'on est sur la bonne voie, mais souvent on n'a pas les ressources sur le banc nécessaires ou les ressources tout court parce qu'il y a eu tellement de blessés ou d'absents. » Mais ce soir, c'est un match de coupe. Quand Marco Donadel dit « c'est une finale », je le comprends. Puis la finale, il n'y a jamais personne qui se rappelle comment tu l'as gagné, à moins que ce soit un exploit, là, tu reviens de l'arrière. Mais ce que je veux dire, c'est la qualité du spectacle que tu offres, c'est une chose, mais c'est tellement moins important que le résultat, surtout quand tu joues contre une équipe de division inférieure. Puis là, ceux qui suivent le CF Montréal face à Forge en championnat canadien depuis des années maintenant, parce que année après année, les deux équipes se rencontrent, tout le monde va savoir que Forge, c'est une bonne équipe que tu peux pas prendre de haut. Si on le savait pas déjà, on le sait certainement après le match aller en mai où Forge a gagné 1 à 0. Tu te remettais d'une grosse, grosse défaite à domicile face au Toronto FC. Je pense que l'équipe était shakée. L'équipe était très entamée physiquement parce que tu étais au bout d'un mois de mai qui avait été extrêmement éreintant. Mais là, écoute, ce sera ton défenseur latéral gauche qui marquera du bord de la fesse droite. On s'en balance. C'est de réussir à passer au prochain tour. C'est la raison pour laquelle Marco Donadel parle d'une finale.
Puis tu le dis, pas le droit à l'échec ce soir pour le CF Montréal. Qui, du côté de la troupe de Marco Donadel, doit se lever, doit en donner plus ce soir?
Ben, c'est drôle, on en parlait là aussi au fond des filets lundi avec Frédéric Laure. L'Inter Miami s'est déplacé à Montréal en fin de semaine, puis ils ont fait la job au CF Montréal. Qu'est-ce qui a vraiment pesé au final? C'est les gars pour qui tu as payé. C'était les Messi. Suarez a été compliqué. Allende a marqué le premier but. tu avais juste une expérience puis une qualité, au final, qui était supérieure chez l'Inter Miami. Le CF Montréal a eu ses occasions, mais la crème est remontée à la surface, puis la crème, malheureusement, était en rose, pas en bleu pour ce match-là. C'est exactement la même chose. J'ai juste un point d'interrogation sur Prince Owusu. Moi, je comprends pas. J'apprécie énormément Marco Donadel. Je pense qu'on pourrait très bien lui donner un contrat à temps plein demain matin et lui enlever son étiquette d'entraîneur par intérim. Par contre, tu sais que ta priorité, c'est le championnat canadien. C'était une de tes priorités en début de saison, comme faire les séries. Les séries, on oublie ça. Il te reste le championnat canadien si tu veux vraiment soulever un trophée. Qu'est-ce que Prince Owusu faisait encore sur le terrain quand tu perdais 4-1 à la 62e minute en fin de semaine? Moi, ça m'a surpris. Tu l'as finalement sorti à la 85e minute. Est-ce que c'est parce que tu ne l'utiliseras pas ce soir? Si c'est le cas, ce serait une grosse surprise parce que tu veux te tourner vers ton gars le plus productif offensivement pour faire la différence. Puis après, tu as Joel Waterman qui revient. C'est un Canadien qui a joué dans cette ligue-là. Ça commence à dater, mais ça a été le premier gars à signer de la Canadian Premier League en MLS avec le CF Montréal. Il était avec le Cavalry, lui, du côté de Calgary. Exactement. Il n'a pas joué le week-end dernier. Il revient d'équipe nationale. Il devrait être frais. Il devrait avoir envie. Et il va remplir un rôle super important. Parce que soit tu le fais jouer en défense centrale, son poste un peu plus naturel, ou si Samuel Piet est en difficulté parce qu'il l'est depuis plusieurs semaines avec des ennuis de santé et sorti tôt dans le match face à Miami, est-ce que c'était pour le préserver en vue du match de ce soir ou au contraire parce que Piet n'est pas capable de renchaîner? À ce moment-là, tu pourrais te retrouver avec un Joel Waterman au milieu de terrain. Si c'est le cas, il y a beaucoup, beaucoup des succès du CF Montréal qui vont reposer sur les épaules de Joel Waterman.
Écoute, tu as bien raison. S'il y en a bien un qui doit se lever, c'est Joel Waterman qui a un peu perdu son poste au cours des dernières semaines. Puis j'ai bien hâte de voir au niveau de l'effectif qu'est-ce qu'on va aligner du côté de Marco Donadel, lui qui mentionnait en conférence de presse que George Campbell était disponible, donc ça enlève une certaine place à Joel Waterman en défense centrale. Bien hâte de voir ça va être quoi l'effectif, puis Owusu, c'est assez questionnable de l'avoir gardé sur le terrain. Puis si on continue au niveau de l'effectif, hier, le CF Montréal a officialisé, puis ça se tramait depuis quelques semaines, l'acquisition du gardien Thomas Gillier en prêt de Bologne. Ouais. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie pour les Sirois, Gazdov, Breza de chez le CF Montréal?
Ça signifie quelque chose. Ça signifie quoi? J'ai de la misère à te le dire. On a posé la question à Marco Donadel hier. Sa réponse a été évasive. Essentiellement, il a pelleté par en avant, l'en avant étant le 24 juillet, où Thomas Gillier va pouvoir officiellement se joindre à l'équipe. Là, il peut s'entraîner, mais il ne peut pas jouer avant le 24 juillet, qui est l'ouverture de la fenêtre des transferts estivales pour l'arrivée de joueurs en MLS. Mais tu ne fais pas ce move-là si tu n'as pas au minimum l'intention de mettre de la pression sur Jonathan Sirois. Puis de la pression, on en a parlé là aussi beaucoup au podcast, c'est pas une mauvaise chose. En même temps, si tu ouvres la porte à Thomas Gillier, qui a 21 ans seulement, et que Gillier est bon, tu continues avec lui, je présume, parce que c'est un projet commun entre Bologne et le CF Montréal. Mais si tu décides d'y aller avec lui, ça veut dire quoi pour le futur de Jonathan Sirois? Il y en a un qu'il faut qu'il saute, là, que ce soit Gazdov qui est numéro 3, Breza qui est numéro 2 ou Jonathan Sirois qui est numéro 1 en ce moment. Mais y aller avec Gillier et que ça fonctionne, mais ça fonctionne pour combien de temps? Parce que si c'est un gars qui est bon, super, à court terme, ça peut donner des super bons résultats pour le CF Montréal, mais à moyen terme, le projet serait, je présume, de le ramener en Italie ou de le vendre ailleurs parce qu'il a repris de la valeur. Puis c'est ton projet d'affaires au CF Montréal. Bologne aussi, tu vas chercher des joueurs à fort potentiel jeunes, puis tu arrives à les revendre par la suite. Mais là, si c'est à recommencer dans 2 ans, c'est une chose de le faire avec un Nathan Saliba parce que tu as plus de joueurs qui ont des minutes de jeu derrière la cravate ou tu as plus de joueurs disponibles sur la planète pour aller les chercher et jouer au milieu de terrain que pour jouer comme gardien de but, par exemple. Donc, c'est un gros, gros projet qui s'en vient. J'ai hâte de voir qui va écoper, mais où Gillier va se retrouver dans la hiérarchie. Puis si tu le fais venir ici, je ne peux pas croire que c'est pour le garder sur le banc pendant toute une saison ou pour le reste de l'année au complet. Je présume qu'on va lui donner des minutes de jeu. Ça va être dans quelle compétition, puis au dépend de qui, ça c'est la grande question.
Vous faites référence, les gars, à Bologne, qui est bien sûr l'autre club de Joey Saputo. Depuis quelques semaines, on sait que ses fils sont de plus en plus impliqués, autant du côté de Bologne que du côté de Montréal. Je vais être bien franc avec vous autres. Je commence à être un petit peu mélangé dans la hiérarchie du CF Montréal. Qui s'occupe de quoi? Là? C'est qui le directeur technique? Puis c'est qui le boss maintenant à bord? Là?
Joey Saputo va toujours rester un rouage important. T'sais, notre ancien patron, Alexandre Panton, quand il a été approché, puis il a fait le processus d'embauche pour devenir vice-président marketing et communication, il y a eu des rencontres avec Joey Saputo. Donc, c'est certain que Joey garde un rôle puis une mainmise, je pense qu'on peut dire comme ça, est importante. Mais le patron, officiellement, au quotidien, c'est Gabriel Gervais. Après, pour la direction sportive, là, ça devient plus intéressant. Parce que pour moi, si j'ai à mettre un visage dessus, c'est Lucas Saputo. Il y a Corey Ray, qui est là comme consultant depuis le départ d'Olivier Renard l'an dernier. Mais Corey Ray, on ne l'a pas beaucoup vu. Et moi, ce que je comprends, c'est que c'est un gars qui avait... ou qui a l'ambition de devenir directeur sportif, que ce soit en MLS ou ailleurs. En ce moment-là, tu ne deviendras pas directeur sportif au CF Montréal. Donc, moi, je serais pas surpris que dans un avenir à court ou moyen terme, Corey Ray prenne un pas de recul dans son influence ou décide carrément de quitter pour laisser davantage de place à Lucas Saputo. Est-ce que ça veut dire que Lucas Saputo n'a pas besoin d'aide, n'a pas besoin d'être mentoré ou épaulé? Je pense que la réponse, c'est non. Il a encore seulement 27 ans. Il est peut-être rendu à 28, là, mais c'est tout juste si c'est le cas. Donc, il y a encore beaucoup, une grosse dose d'inexpérience dans tout ça. Donc, ce serait intéressant, si Corey Ray finit par partir, de voir si on le remplace ou non. Moi, je serais favorable pour un remplacement, mais celui qui prend les plus grosses décisions sportives, conjointement avec Joey Saputo et Gabriel Gervais, là, qui doivent toujours signer en bas de la feuille, c'est Lucas Saputo.
OK, parce écoute, puis encore, là, je vais faire attention à ce que je dis. OK, je vais faire très attention à ce que je dis. Mais la situation me fait penser peut-être un petit peu à celle de Lance Stroll en Formule 1. OK? Est-ce que Lucas Saputo, tu parles de son âge, 28 ans seulement, est assez compétent? Puis c'est rien contre le petit gars, c'est juste qu'il a 28 ans, il y a encore beaucoup de croûte à manger. Est-ce qu'il est assez compétent pour prendre de telles décisions ou c'est un joujou que son papa lui a mis entre les mains et c'est là que je fais le lien avec Lance Stroll puis Lawrence Stroll parce qu'on y a, je te dis pas que Lance Stroll c'est pas un bon pilote, là, mais tu sais, son papa il a pas mal mis un volant entre les mains. Je sais pas si la comparaison est bonne, là, mais tu comprends ce que je veux dire.
Ouais, ouais. Ben, moi, je côtoie pas assez Lucas Saputo au quotidien pour être capable de te répondre de manière catégorique. Par contre, j'ai parlé à plusieurs personnes qui côtoient Lucas Saputo sur une base régulière et les échos, ces gens-là me parlent puis ils ont pas d'intérêt personnel à encenser le travail de Lucas ou parler du potentiel intéressant qu'il présente et de ce qu'il apporte à la table lorsqu'il est dans une discussion, dans une salle de réunion. Mais les gens sont très positifs. Je ne sais pas si c'est en comparaison avec autre chose, en comparaison avec avant, par rapport à leurs attentes, je ne le sais pas. Donc, moi, parler d'un joujou qu'on donne à son enfant, c'est sûr qu'il y a un legs familial dans tout ça, mais je pense que ce serait, puis ce n'est pas ton intention, là, tu fais juste imaginer la chose, ce serait réducteur de le présenter juste de cette manière-là. Après, est-ce qu'il y a les compétences? Je pense qu'il n'y a personne en ce moment qui peut dire qu'on le sait de manière définitive. Est-ce qu'il y a du potentiel? Par contre, moi, des échanges que j'ai eus avec lui, de ce que j'entends des gens autour de lui, je pense que les gens sont très optimistes par rapport à son potentiel. À court terme, par contre, ta question, JP, c'est super légitime et c'est la raison pour laquelle moi, j'aimerais voir un gars, tu sais, scénario idéal, tu as un gars de 65, 70 ans qui n'a aucun intérêt personnel à part redonner à quelqu'un avec qui... Il y a une relation particulière, puis il pourrait venir le mentorer en disant « Hey, moi, je vous donne mon avis, mais ma job, ma carrière, ma sécurité financière ne dépend pas de mon poste d'employé chez le CF Montréal ou chez Bologne. » Si tu pouvais avoir un scénario comme celui-là, je pense que ce serait extraordinaire, pas juste pour Lucas Saputo, mais la famille et les deux clubs au grand.
Je vais te dire, moi, ce qui me fait peur là-dedans, OK? Puis lundi... J'ai fait un petit focus group ici à BPM Sport à savoir de quoi les gens voulaient qu'on parle cet été. Et je vais faire attention parce que je sais qu'on est diffuseur, puis tu sais que j'aime le foot, puis j'aime beaucoup ton travail, puis bon.
Mais je t'ai entendu avec Max.
Exact. Mais il semble, compte tenu des insuccès du club cette année, il semble avoir un désintérêt qui me fait très peur. OK? Alors, je reviens à Luca Saputo. Et, tu sais, je dis pas que c'est une expérience, mais je pense que le CF est dans un moment crucial de son histoire. Puis je suis pas en train de dire que le bateau est en train de couler, mais il faut que t'évites justement que l'eau rentre dans la chaloupe. Est-ce que c'est le bon gars pour cette période cruciale? Je me pose légitimement la question.
Est-ce qu'Adam Braz était le bon gars quand on l'a ramené d'une job en immobilier à Miami ou en Floride?
Peut-être pas. Peut-être pas. Non, mais attends, il y avait un buzz dans les médias, puis il y avait un buzz au Stade Saputo.
Non, c'est faux. Non, c'est faux. On réécrit l'histoire parce que Joey Saputo lui-même, début 2015, souviens-toi, là, ça, c'est quelques semaines avant l'épopée la plus extraordinaire de cette équipe-là dans toute son histoire, depuis le début des années 90, c'était la Ligue des champions CONCACAF en 2015. Tu t'es rendu jusqu'en grande finale.
Ouais.
6 mois plus tard, qui débarquait au Stade Saputo? Didier Drogba. Ouais. Tu te rendais en demi-finale de conférence, puis l'année d'après, tu te rendais en finale de conférence avec ce que le commissaire Don Garber, commissaire de la MLS, a appelé le meilleur affrontement de série de l'histoire de la Ligue depuis 1996.
Ouais.
Donc, on est en train de réécrire cette histoire-là comme si les acteurs qui étaient présents à l'époque avaient construit quelque chose de phénoménal. Adam Braz était directeur sportif. Tu l'avais ramené littéralement. Là. Il était manager de l'équipe là, pour les opérations. Après ça, il a décidé de quitter parce qu'il voulait être directeur sportif ou avoir un rôle sportif plus important. On l'a ramené de la Floride en faisant un appel. On a dit « Ah, c'est notre gars, c'est celui dont on avait besoin ». Ça n'a pas été une grosse étude de cas et de recrutement pour aller le chercher. Mais la différence que tu avais à ce moment-là, puis là, il y a peut-être un parallèle à faire. Il faut que tu mettes de l'argent. Parce qu'à l'époque, tu avais plein de défauts. Tu avais une manière de construire une équipe qui était ultra dysfonctionnelle. Tu avais une manière de communiquer qui ne connectait pas tant avec les gens, mais tu avais qui? Tu avais des Laurent Simon, des Patrice Bernier, des Nacho Piatti.
T'avais un momentum, t'avais un certain buzz. Je me rappelle à cette époque-là, je couvrais à l'occasion les pratiques pour TVA Sport. On était là, TVA Sport, on était là à chaque pratique de l'Impact de Montréal ou du CF Montréal. Ce qu'on voit moins présentement, là.
Oui, mais encore là, on mêle des pommes et des oranges, là, parce que là, t'es dans une ère Apple TV qui a beaucoup ébranlé les choses, parce qu'à RDS, par exemple, je le sais, moi, je décris...
Tu le vis long bord, là, ouais.
Les 14 matchs du CF Montréal sur nos ondes, il y a la présence de la radio qui est super intéressante, puis nous, ça nous permet, comme on le fait en ce moment, de beaucoup couvrir le club. Est-ce qu'il y a un effort supplémentaire à faire pour connecter davantage avec les médias, les amener, puis qu'on raconte mieux l'histoire du CF Montréal? Absolument. Pourquoi on est allé chercher un nouveau directeur des coms, qui est en passant un ancien du club, et un nouveau vice-président des coms? C'est exactement pour ça. Là. Moi, je ne suis pas en train de me mettre la tête dans le sable puis dire que tout va bien au CF Montréal. Absolument pas. Mais je dis juste, faisons attention de ne pas mettre sur un piédestal une époque qui était gérée souvent tout croche, mais une époque à laquelle Joey Saputo mettait de l'argent. Puis moi, quand les fils de Joey ont été nommés, c'était au mois de décembre dernier, le premier réflexe que j'ai eu, c'est pour compenser à l'inexpérience de ces deux kids-là qui arrivent, puis à qui il faut donner le temps d'apprendre, de trouver leur repère, puis de faire leur réputation, puis leur marque, il faut que tu mettes de l'argent. Puis c'est là où j'ai très, très hâte de voir ce qu'on va faire cet été. Parce que, un, j'avais déjà ce commentaire-là au temps des fêtes, l'an dernier, mais deux, depuis ce temps-là, je pense en raison des mauvais résultats de l'année, Gabriel Gervais nous dit on a eu une enveloppe supplémentaire que le conseil d'administration nous a mis à notre disposition pour améliorer l'équipe, pas à la fin de la saison, comme on le fait année après année depuis 2019, mais en cours de saison, comme on ne l'a jamais fait depuis 2019. À ça, tu ajoutes en plus Nathan Saliba que tu viens de vendre pour environ 3 millions d'euros. Donc là, si tu es agressif dans le marché des transferts, rapidement, tu peux changer ce narratif-là en disant bien, l'arrivée des deux jeunes plus expérimentés, certes, mais qui ont plus de moyens, peut peut-être compenser puis ramener le buzz dont tu parles.
Ouais.
C'est une perception qui est importante, mais je pense que c'est surtout ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'en 2022,
c'était une perception plus ou moins. Là, veut dire, Drogba arrive en ville, j'avais couvert son arrivée à l'aéroport, c'était plus qu'une perception, là, c'était un buzz généralisé.
Non, mais JP, en 2022, là, le stade était plein. Cette équipe-là a eu une saison record avec un entraîneur que tu n'aurais jamais dû laisser partir. Okay?
On s'entend.
Tu le laisses partir, puis l'année d'après, il se ramasse quoi? Champion de MLS Cup, ailleurs.
Ouais.
Ben, c'est là, puis c'était pas Luca Saputo ou Simone Saputo qui était en charge.
C'est clair.
C'était ceux qui sont là depuis des années, voire depuis toujours. Donc, c'est là où je pense qu'il faut faire attention. Ça veut, je le répète, là, je me mets absolument pas la tête dans le sable. Il y a un gap d'expérience auquel il faut que tu fasses bien, bien, bien attention. Puis je pense que c'est là où Olivier Renard, pendant qu'il était présent comme directeur sportif, il était capable de compenser des grosses carences de l'organisation, particulièrement en communication. En même temps, ton bateau, il peut se revirer de bord assez rapidement, merci. 2014 était une année catastrophique. Ton coach était pas particulièrement bon. Il communiquait mal. Tu sentais que cette équipe-là s'en allait nulle part. 6 mois plus tard, tu es en finale de Ligue des champions CONCACAF. Finalement, tu congédies ton coach parce que tu te rends compte que ça, c'était peut-être un genre de flash in the pan. Puis Drogba arrive. Pourquoi? Parce que quand il y a une opportunité qui se présente,
ouais,
tu sautes dessus puis tu mets l'argent. Si tu reviens à ça, la perception pourrait rapidement changer pour le club.
En tout cas, je me fais le porte-parole de bien du monde. Là. On veut vous aimer, mais donnez-moi une raison de vous aimer, puis ça va commencer
mais JP,
par
JP,
ce soir.
Minute, ouais. JP, t'étais où en 2022? T'étais-tu au stade?
J'animais la dose, fait que je couvrais le club, oui.
Bon, fait que ce que je veux dire, c'est que les gens qui me parlent toujours de « les gens ont débarqué, la chaîne a débarqué, il n'y a plus de buzz, la perception est mauvaise », en 2022, là, on était où pour dire « c'est extraordinaire ce qui se passe en ce moment ». On était où pour dire « cette équipe-là a vendu pour près de 20 millions de dollars ». On était où pour dire « Wilfred Nancy, là, en mai, en juin, en juillet, pour dire « il faut y donner un contrat parce que ce qu'on voit, là,
je l'ai dit,
sous nos yeux ».
Je l'ai dit, oui, fort.
Mais c'est ça. Mais moi, je pense que c'est important de se rappeler que ça, là, c'était pas dans une administration Nacho Piatti. C'était pas dans une administration Didier Drogba,
je comprends ce que tu veux dire.
Et compagnie. C'est là où la chaîne a débarqué à un moment où tu as laissé partir un coach et peut-être certains joueurs que tu aurais dû avoir le courage de payer et à qui tu aurais dû faire confiance davantage. Si c'est ça qui peut arriver en même temps que Luca et Simone Saputo, je pense que malgré l'inexpérience, ça pourrait s'avérer un pas dans la bonne direction.
En tout cas, Ali, on va s'entendre sur une chose. Ça va commencer par une victoire ce soir face au Forge FC.
Là-dessus, tu as 100% raison.
Hey, on va te souhaiter un super bon voyage à New York. Bon match entre PSG et Real Madrid. Ouais, ça va être spectaculaire. Puis on se parle très prochainement, mon ami Ali.
Salut.
À bientôt. Bye-bye. Alors voilà, Olivier Brett, un ami de longue date pour moi, avec qui j'ai fait mes débuts au début de TVA Sport, un gars que j'aime beaucoup. Pas besoin d'être tout le temps d'accord, c'est bien correct, comme ça. Mais moi, je vous le dis, le désintérêt, peut-être temporaire, mais le désintérêt que je ressens présentement en tant qu'animateur estival à BPM Sport me fait très peur. Très peur et me rappelle une certaine époque. Toi, t'es trop jeune, mais la fin des expos, là, 2002, 2003, 2004, là, il y avait ce genre de désintérêt. Écoute, Stade Olympique là, peut contenir 60 000 personnes. Là. Au match, il y avait 3 700 personnes, gros top. Là, t'sais. Mm-hmm. Il y avait un désintérêt. Puis moi, je vous le dis, là, on a perdu les Nordiques. On y reverra plus jamais. On a tout fait. Québec a tout fait. On a même bâti un building sans avoir la garantie de revoir les Nordiques. OK? Puis ça arrivera jamais. On a perdu les expos. On a tout fait pour ramener les Rays. On est dans une autre époque. On est dans une époque de milliards et de trilliards. OK? Alors que nos infrastructures montréalaises tombent en ruine. Ça a rue Laurier, après 8700 cônes, où est-ce qu'on est, là? OK? On est en train de couper dans l'éducation, là. On est en train de s'assiner sur le troisième lien, là. Oubliez ça au Québec. On ne reverra plus jamais une équipe du baseball majeur au Québec. C'est triste, mais c'est ça, en réalité. S'il fallait qu'on perde une équipe de la MLS par manque d'intérêt du public, je vous le dis, je vous le call d'avance, on ne reverra plus jamais un club de la MLS à Montréal. Fait que le désintérêt, on l'a vécu deux fois à date. Et dans les deux fois, ça a mal viré. le désintérêt qu'on ressent présentement pour le CF Montréal est très, très, très dangereux. Et même, puis là, je vais mettre la table pour notre chronique, pour la ligne ouverte qu'on va ouvrir après la pause. Le marché montréalais me fait peur. Je suis Montréalais. Je suis né à Ville-Saint-Laurent. J'allais au secondaire en métro. OK? Je suis un vrai Montréalais pur et dur. Mais je me demande de plus en plus si Montréal est une vraie ville de sport. Je regarde à Québec. Puis là, vous allez me dire, là, tu compares des guenilles et des serviettes. Je comprends. OK? Mais le Rouge et Or, succès garanti, rempli. Capitale de Québec, succès garanti, rempli. Tout ce qu'on fait à Québec, peu importe le sport auquel on s'intéresse, pogne et fonctionne. OK? Il y a une couple de semaines, il y avait un tournoi de volleyball à Québec, au PEPS, rempli à craquer. Les Raptors s'en vont faire leur camp d'entraînement à Québec, rempli à craquer. Québec est une mosuse de bonne ville de sport. On s'intéresse à tout et ça pogne pour tout. Les Remparts de Québec, ça marche-tu les Remparts, le junior au Québec? T'as un club junior qui remplit le centre Vidéotron. Wow! Mais est-ce que Montréal est vraiment une bonne ville de sport? Je me pose de plus en plus la question.